Encore une fois, j'ai été bloqué par la SNCF toute la journée. Et encore une fois, il est 9h du soir, 9h30 même. Ça m'ennuie surtout parce que, pour vous, parce que j'aimerais mettre le sermon dès le samedi pour que vous puissiez le télécharger posément et que vous ne soyez pas dans l'urgence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous allons voir aujourd'hui la richesse de l'Eucharistie comme nourriture. Peut-être vous étonnerez-vous que nous n'abordions l'Eucharistie comme nourriture que maintenant, quasiment en dernier. La raison, c'est que il faut savoir de quoi nous nous nourrissons. Il fallait donc absolument parler de la présence réelle, le Christ, de la passion, enfin de tout ce dont nous avons parlé auparavant. Maintenant que le Christ nous dit que tout cela est une nourriture, alors nous savons de quoi nous nous nourrissons et nous pouvons par conséquent entrer, voyez, dans les vues de Dieu. Parce que nous ne sommes pas passifs dans cette nourriture. Nous sommes pris, mais nous devons nous donner, nous aussi. Vous voyez, quand un enfant est nourri par sa maman, c'est la maman qui sait ce qu'elle donne à son enfant. Il suffit que l'enfant mange ce que sa mère lui donne. Mais là, il s'agit d'une nourriture spirituelle. Et par conséquent, nous avons une réponse à donner, nous avons une démarche à faire, nous avons une vie dans laquelle nous entrons. Premier point de ce sermon, cette nourriture nous fait communier au sacrifice. La première chose, vous voyez. Pourquoi? Parce que nous recevons en breuvage le sang répandu pour nous et pour beaucoup. Donc cette nourriture eucharistique nous nourrit de la victime. Il ne faudrait pas penser à la nourriture eucharistique en pensant trop à la nourriture corporelle que nous prenons habituellement, la nourriture ordinaire. C'est une vraie nourriture, mais il faudrait plutôt comparer avec des nourritures spirituelles. Donc je vous disais, l'Eucharistie est une nourriture qui nous fait entrer dans le sacrifice. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, dans beaucoup de sacrifices, on mangeait la victime, de manière à montrer à Dieu qu'on entrait dans ces sentiments de sacrifice, on s'offrait. Et ça, c'est la première chose. Nous sommes pris par Dieu et donc nous devons nous donner. C'est le premier sermon que je vous ai fait. Le sacrifice, c'est entrer dans le sacré. Le sacrifice, c'est se consacrer au sacré. Bon, c'est une répétition, un pléonasme, mais ça fait bien comprendre les choses. C'est sortir du profane pour entrer dans le sacré, c'est-à-dire en Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui soit vraiment sacré. Et par conséquent, cette nourriture eucharistique est la nourriture qui nous consacre à Dieu. Et vous avez une différence très importante entre la nourriture naturelle et cette nourriture eucharistique, c'est que la nourriture naturelle, nous l'assimilons et elle devient nous, tandis que nous sommes assimilés par le Christ, et il faut lire pour cela le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, le discours sur le pain de vie, qui est très important, qui serait mal compris si on ne le mettait pas en référence avec le sacrifice de notre Seigneur, vous voyez. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est-à-dire qu'il y a une assimilation au Christ. Et de même que le Christ, c'est toujours dans le même discours sur le pain de vie, de même que le Christ dit qu'il est uni à son Père, de même il dit que par l'Eucharistie, nous sommes unis à lui. C'est pour ça, je vous ai expliqué, en parlant des sacrements et du baptême et du sacerdoce des fidèles, j'ai beaucoup insisté sur cette question du sacerdoce des fidèles, dont on parle peu aujourd'hui parce qu'elle est très déformée. Mais c'est grâce à ce caractère de sacerdotal, vous ne pouvez pas offrir la victime comme le fait le prêtre, mais vous pouvez vous offrir avec la victime. Et vous pourrez même participer à l'offrande que Jésus-Christ fait de lui-même. Donc c'est le premier caractère, et il est très important, cette nourriture nous fait entrer dans le sacrifice du Christ, parce que c'est une nourriture qui nous assimile. Pourquoi cela? Parce que c'est une nourriture de l'âme. La nourriture ordinaire nourrit le corps, tandis que le Christ nourrit l'âme. Celui qui me mange vivra par moi. Et lorsque les disciples se troublent et se scandalisent du discours de notre Seigneur, celui qui doit manger ma chair et boire mon sang, lorsqu'ils sont scandalisés, notre Seigneur leur dit « Mais vous n'avez pas compris, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Pourquoi sont-ils scandalisés? Parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils ne montent pas au niveau esprit et vie. Et esprit et vie, cela veut dire que la nourriture dont je vous parle, dit notre Seigneur, je vous parle d'une nourriture pour que vous compreniez, parce que ce sont des choses que vous connaissez, mais c'est une nourriture de l'âme. Et cette nourriture de l'âme vous fait entrer dans mon sacrifice. Et cette nourriture vous donne ce dont nous avons parlé depuis le début, à savoir la réalité du sacrement, vous vous rappelez, la res. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé du sacrement lui-même, tout seul, puis de la res et sacramentum, c'est-à-dire de cette réalité intermédiaire, à savoir notre Seigneur dans son humanité. Et maintenant, nous arrivons enfin à la réalité ultime, c'est-à-dire la communion à la divinité, c'est-à-dire l'entrée dans la divinité, le sacrifice, c'est-à-dire que nous laissons derrière nous tout ce qui est humain pour nous consacrer exclusivement à Jésus-Christ qui nous prend et qui nous offre à son Père. Puisque cette nourriture est une nourriture de l'âme, il faut parler de la contemplation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas unis à Dieu uniquement au moment où nous recevons cette nourriture. Elle nous donne une vie. Et qu'est-ce que cette vie? Cette vie, c'est celle de l'âme, celle de l'intelligence. Mais qu'est-ce que l'intelligence? On dit dans le langage commun qu'on nourrit son esprit, qu'on nourrit son intelligence par des bonnes lectures ou des bonnes considérations. Et ici, nous nourrissons notre esprit, donc notre vie chrétienne, par la contemplation de Dieu, sachant que la contemplation est une union. Il n'est évidemment pas question d'un discours sur Dieu, d'une simple méditation extérieure. Une contemplation suppose une union. Quand quelqu'un contemple un beau paysage, il y a une certaine fusion, pas seulement avec le paysage, mais avec le Créateur qui a fait le paysage. Et donc, cette nourriture de l'âme nourrit la contemplation. Or, la contemplation, c'est la foi. Et voilà pourquoi notre Seigneur dit « Mysterium Fidei », mystère de foi. Parce qu'il nous avertit que c'est dans la foi que nous entrons pleinement. Pourquoi dans la foi? Parce que pour l'instant, les choses sont voilées sous les espèces eucharistiques. Il faut aller au-delà. Il est évident que dans l'éternité, alors le voile sera levé. Ça ne sera plus la foi. Ce sera le banquet eucharistique. Et c'est pourquoi notre Seigneur, dans l'Évangile, parle souvent du banquet. Et donc cette nourriture nous fait entrer dans un banquet, et pas n'importe quel banquet. Lorsqu'il parle du banquet, notre Seigneur parle toujours du banquet des noces. Le banquet de la vie éternelle. Parce que le banquet, c'est des noces. Les noces, c'est l'union. Le banquet, c'est une nourriture, bien entendu. Le banquet des noces, c'est la joie. On est heureux. Pourquoi on est heureux à un banquet de noces? Parce que la vie continue, parce que la vie se perpétue, parce qu'on entre dans une nouvelle famille et on continue la transmission de la vie. Et le banquet de noces, c'est la charité. Or, ce banquet, nous y participons ici-bas dans la foi, réellement hein, dans la foi et la charité, mais c'est voilé. Et nous y participerons dans la plénitude lorsque nous serons dans l'éternité. Et donc la nourriture eucharistique nous fait entrer dans la grande famille de Dieu qui a le Christ pour primogenitus, le premier-né, et nous sommes tous ses frères, et nous sommes tous unis dans l'amour de Dieu, la charité c'est l'amour de Dieu, rappelez-vous, nous sommes tous unis dans la charité, et je vous l'ai dit, les pères de l'Église nous parlaient des grains de froment et des grains de raisin qui sont broyés pour faire un seul pain et un seul vin, et bien voilà maintenant. Le banquet réexprime la même chose d'une façon encore plus profonde. Nous entrons dans cette amitié. Si la nourriture est une nourriture de l'âme, enfin, puisqu'elle est une nourriture de l'âme, il faut donc l'entretenir. Nous l'entretenons essentiellement par la contemplation, qui est une œuvre de foi, par la proximité avec le bon Dieu. Petit à petit, à force d'être uni à Dieu, de communier avec Dieu. Dieu va occuper nos pensées. Même lorsque nous serons à des choses extérieures, notre pensée sera occupée par Dieu. Et pas, ça ne sera pas deux choses que nous faisons à la fois, ça sera la pensée de Dieu qui prendra, qui éclairera bien sûr, mais qui inspirera ce que nous avons à faire à l'extérieur, et ça va donc changer nos activités extérieures. Nous ne ferons plus la même chose, nous ne le ferons plus de la même manière, nous ne le ferons plus avec les mêmes sentiments. Nous le ferons dans la foi et dans la charité. Et ça c'est important parce que le dernier sermon que je vous ferai la prochaine fois sera un sermon sur la communion sacramentelle et la communion spirituelle, et je vous expliquerai comment cette communion spirituelle nous fait entrer justement dans une union qui se prolonge. Il faut bien comprendre que cette vie qui nous est donnée par Dieu doit être entretenue. Toutes ces choses-là, vous les méditerez avec la Très Sainte Vierge. Vous lui demanderez de préparer votre âme. Vous lui demanderez de vous faire pénétrer dans ce mystère. Vous lui demanderez de vous accompagner aux noces éternelles. Ce que vous donnera cette nourriture, en définitive, c'est la gloire éternelle commencée ici-bas et qui se poursuivra éternellement. Voici le discours de notre Seigneur en Saint Jean, chapitre 6. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ben oui, c'est pas la même nourriture, c'est qu'une figure. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point, ici, c'est-à-dire le Christ. Je suis le pain vivant, qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et là, vous voyez, c'est très riche parce qu'il donne sa chair en nourriture. En même temps, il la donne pour la vie du monde, c'est-à-dire qu'il la sacrifie sur la croix. Là-dessus, les Juifs disputaient en se disant « Comment est-ce possible ?» Jésus leur répond « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point ou vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ça, nous en avons parlé la dernière fois. Mais un des fruits de l'Eucharistie, c'est la résurrection. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alors ne croyez pas que notre Seigneur se répète, même s'il dit plusieurs fois qu'il s'agit de nourriture, de sa chair est une nourriture, son sang un breuvage. À chaque fois, il avance un petit peu plus loin. Et maintenant, il affirme, voyez, non seulement que nous vivrons, mais que nous demeurerons en lui et qu'il demeurera en nous. Et maintenant, il va encore plus loin. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. c'est-à-dire que la vie du Père passe par le Fils et va jusqu'à nous. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne, etc. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient, attention les disciples, pas les apôtres, il leur dit, cela vous scandalise? Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors comprenez bien, il ne s'agit pas de dire que la chair ne sert à rien du tout. C'est mauvais ça de dire ça. Mais elle est une étape, elle est un point de départ, elle est un serviteur. Et il ne faut pas confondre et intervertir le serviteur et le maître. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il faut monter à ce niveau. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'il n'y a que dans la foi, que dans la lumière de la foi, que nous pouvons comprendre les paroles de notre Seigneur. La lumière de l'intelligence naturelle, de l'intelligence strictement humaine, est impuissante. Elle saisit bien qu'il y a un mystère, mais ne peut pas entrer dedans. Les gens qui n'ont pas la foi ne peuvent pas entrer dedans. Il faut la foi, parce que la foi est une lumière divine qui nous fait voir les choses de Dieu. Et d'ailleurs, il le précise. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et ça, je terminerai là-dessus, c'est très important. Lorsque nous nous unissons à notre Seigneur dans l'Eucharistie, ce n'est pas nous qui faisons la démarche, c'est lui qui l'a faite le premier. Il nous sauve, il nous appelle, il nous fait venir, et il se donne à nous, à condition que nous nous donnions à lui. C'est ce que nous verrons dans le dernier sermon, les conditions pour bien entrer dans l'union du Christ dans l'Eucharistie, pour bien en profiter. Nous parlerons également de la communion spirituelle. Vous verrez, ça sera très intéressant encore une fois. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.